Quand les gens font face à des problèmes ou quand ils doivent prendre des décisions importantes, ils se tournent souvent vers les autres pour recevoir des conseils. Si les enjeux sont relativement faibles, les gens vont probablement se tourner vers leur famille ou vers leurs amis pour leur demander quoi faire. Mais quand les enjeux sont importants, quand il risque d'y avoir des conséquences à long terme, les gens préfèrent souvent solliciter l'avis d'un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en mesure de se prononcer de manière fiable et avec autorité sur la voie à suivre. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a souvent pourvu ce genre d'instructions parfaitement dignes de confiance à travers ses prophètes. Ces hommes et ces femmes appliquaient avec autorité les termes des diverses alliances de Dieu aux situations que traversait son peuple.
Ceci est la troisième leçon de notre série « Nous croyons en Jésus » et nous l'avons intitulée « Le prophète ». Dans cette leçon, nous allons examiner les différentes façons dont la fonction de prophète est assumée par Jésus, celui qui applique à notre vie les termes de l'Alliance de Dieu. Comme on l'a dit dans une leçon précédente, il y a trois offices que Dieu a institués dans l'Ancien Testament et au travers desquels il administrait son royaume. L'office de prophète, celui de prêtre et celui de roi. Et dans la dernière étape du royaume de Dieu, que l'on appelle communément la période du Nouveau Testament, ces offices trouvent tous les trois leur accomplissement ultime en Christ. Par conséquent, le fait d'étudier l'importance et la fonction de ces offices au fil de l'histoire peut nous aider à comprendre, d'une part, la façon dont le royaume de Dieu est aujourd'hui administré par Jésus, et d'autre part, les bienfaits et les devoirs qui sont ceux de ses disciples. Quand les gens entendent le mot prophète, ils ont tendance à imaginer quelqu'un qui prédit l'avenir. Et cela est vrai même des chrétiens. Mais si les prophètes de la Bible, effectivement, prédisaient parfois l'avenir, ce n'était pas là le but principal de leur ministère. De façon plus fondamentale, les prophètes étaient les ambassadeurs de Dieu. Leur travail consistait à expliquer les alliances de Dieu et à exhorter le peuple de Dieu à lui être fidèle. Et cela était aussi le cœur de l'œuvre prophétique de Jésus. Dans le prolongement de ce qu'on vient de dire sur le rôle des prophètes, notre définition du prophète sera la suivante. Un ambassadeur de Dieu et de son alliance, chargé de proclamer et d'appliquer la parole de Dieu, notamment dans le but d'avertir de la venue du jugement contre le péché et d'encourager le genre d'allégeance à Dieu qui aboutit à ses bénédictions. Dans cette leçon, nous allons aborder trois sujets en rapport avec le rôle de Jésus en tant que prophète. D'abord, nous allons examiner le contexte de l'Ancien Testament sur lequel s'appuie l'office prophétique de Jésus. Ensuite, nous verrons ce qu'enseigne le Nouveau Testament concernant l'accomplissement en Jésus de cet office. Et troisièmement, nous parlerons de l'application présente de l'œuvre prophétique de Jésus.
En tant que chrétien, quand nous pensons à Jésus comme étant notre prophète, il est important que nous nous souvenions qu'il y a eu avant lui d'autres prophètes au service de Dieu et de son alliance. Tout au long de l'histoire biblique, il y a eu des centaines de prophètes au service du Seigneur. Ils n'avaient pas la même puissance ni la même autorité que Jésus. Mais leur fonction préfigurait la façon dont Jésus accomplirait cet office dans le royaume. Donc, si nous voulons bien comprendre quel est le rôle de Jésus en tant que prophète, il faut commencer par s'intéresser aux prophètes qui l'ont précédé.
Nous allons étudier le contexte de l'Ancien Testament sur lequel s'appuie l'office prophétique de Jésus en trois étapes. D'abord, nous évoquerons les qualifications requises pour le rôle de prophète. Ensuite, nous réfléchirons à la fonction des prophètes. Et enfin, troisièmement, nous verrons les attentes qui reposaient sur cet office dans l'Ancien Testament. Commençons par les qualifications requises pour l'office de prophète. Comme on l'a déjà dit, les prophètes de l'Ancien Testament étaient des ambassadeurs ou des émissaires des alliances de Dieu. Dans ces alliances, Dieu s'est révélé comme étant le grand empereur de son peuple et ses prophètes lui servaient d'émissaires, c'est-à-dire de messagers officiels, depuis son trône dans le ciel. Il transmettait la parole de Dieu au peuple d'Israël ainsi qu'à d'autres nations et il exhortait les gens à être fidèles à l'Éternel leur roi. Évidemment, les nations voisines d'Israël avaient aussi, bien souvent, leurs propres prophètes qui ressemblaient de façon superficielle aux vrais prophètes de Dieu. Mais ces faux prophètes employaient des subterfuges, la superstition et des puissances démoniaques pour se faire les représentants de leurs faux dieux.
Les faux prophètes, à l'époque biblique et à la fois en Israël et dans les pays voisins, ressemblaient beaucoup aux vrais prophètes, que ce soit par leurs actes, par leurs paroles ou par leur apparence. Mais ce qui est le plus frappant à mon avis quand on regarde la Bible, et notamment les livres des rois et des chroniques et d'autres livres prophétiques, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament se distinguent des faux prophètes par le fait qu'ils parlent au nom de l'Éternel lui-même. Ils parlent en son nom, et ce faisant, ils ne contredisent rien de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Ils ne contredisent pas ce que d'autres prophètes authentiques ont dit, et ainsi ils se distinguent des autres. Un autre facteur qui est très important à mon avis, c'est aussi que les prophètes de l'Ancien Testament sont habituellement des gens qui s'opposent aux croyances populaires. Et malheureusement, surtout dans le royaume d'Israël, au nord, il y a eu une période où les prophètes étaient à la solde des autorités. Quand Amos dit, dans Amos chapitre 7, « Je ne suis ni prophète ni un fils de prophète », ce qu'il veut dire par là, en s'adressant aux sacrificateurs dans le royaume du Nord, c'est qu'il n'est pas à la solde du roi ni de ce sacrificateur. Je ne suis pas prophète, c'est-à-dire je ne suis pas un prophète professionnel, et ni fils de prophète, c'est-à-dire je n'appartiens pas non plus à une école de prophètes, et donc tu ne peux pas me dire quoi faire. Et si Amos dit cela, c'est parce que le sacrificateur est en train de lui dire de rentrer chez lui, dans le royaume du Sud, et d'arrêter de les embêter dans le royaume du Nord. Mais Amos dit qu'il ne peut pas, parce qu'il répond aux ordres de Dieu. Et on découvre assez souvent que les prophètes, comme Jérémie, Michée ou d'autres, sont régulièrement confrontés à ces faux prophètes qui sont à la solde des rois. S'il y a une chose qu'on peut dire sociologiquement au sujet des vrais prophètes, c'est qu'ils ne sont pas à la solde des rois. Ils ne sont pas à la solde des prêtres. Ce sont les porte-paroles de Dieu, envoyés pour témoigner contre les abus et les crimes et le mal commis par des gens comme les rois et les prêtres.
Dans un monde où il y avait de nombreux faux prophètes, il était important pour les Israélites de pouvoir distinguer les vrais prophètes de Dieu des faux. C'est pour cette raison que l'Ancien Testament énumère plusieurs qualifications auxquelles on peut reconnaître les vrais prophètes de Dieu. Ces exigences sont mentionnées dans Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 22, où Moïse dit ceci : L'Éternel me dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Dans ce passage, il y a au moins quatre qualifications auxquelles on est censé pouvoir reconnaître un vrai prophète de Dieu. Comme le dit Moïse, un vrai prophète a été appelé par Dieu. Il a reçu une parole de Dieu à transmettre au peuple. Il manifeste sa loyauté à Dieu en parlant en son nom et de manière conforme à ses commandements. Et son ministère est authentifié par le fait que son message se réalise. Notre étude des qualifications requises dans l'Ancien Testament pour le rôle de prophète s'arrêtera sur chacune des quatre exigences mentionnées par Moïse. Premièrement, un véritable prophète devait être appelé par Dieu. Deuxièmement, il devait avoir reçu la parole de Dieu pour la transmettre au peuple. Troisièmement, il devait se montrer loyal envers Dieu en ne parlant que d'une manière conforme à ses commandements. Et quatrièmement, il devait être authentifié par l'accomplissement de son message. Nous allons nous intéresser en détail à chacun de ces critères, à commencer par le fait qu'un véritable prophète devait être appelé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de personnes ont été appelées par Dieu à le servir en tant que prophète. Cet appel n'était pas une simple invitation, c'était une sommation divine. Dieu, le roi des rois, donnait l'ordre à un de ses sujets de le servir en tant qu'ambassadeur. Cette sommation divine apparaît à chaque fois que l'Ancien Testament raconte l'appel d'un prophète. Par exemple, voyez la façon dont le prophète Ézéchiel a été appelé dans Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. « Il me dit, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'écoutais celui qui me parlait. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est qu'au moment où Dieu enjoint Ézéchiel de se tenir debout et d'écouter ses ordres de mission, il envoie aussi son esprit pour faire en sorte qu'Ézéchiel obtempère. L'appel d'un prophète résultait d'un choix souverain de Dieu en tant que roi de son peuple. Ces appels au ministère prophétique, Dieu les adressait souvent directement aux prophètes et souvent de manière audible. Dieu appelle directement Samuel dans 1 Samuel chapitre 3. Il appelle directement Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, Amos dans Amos chapitre 7 et Jérémie dans Jérémie chapitre 1. Mais parfois, Dieu mandate des prophètes de manière indirecte, en disant à un prophète d'en appeler un autre. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 16 par exemple, Dieu ordonne au prophète Élie de nommer Élisée comme successeur. Cette forme de délégation permet de mieux comprendre ce que sont les fils des prophètes ou la troupe des prophètes dont il est question dans des passages comme 1 Roi, chapitre 20 et 2 Rois, chapitre 2. Ce sont des groupes de prophètes réunis autour d'un prophète particulier qui a été appelé par Dieu. Mais dans tous les cas, que l'appel du prophète vienne directement de Dieu ou qu'il vienne à travers un serviteur de Dieu dûment mandaté, cet appel, en fin de compte, est une initiative de Dieu. À défaut de cet appel surnaturel, personne ne pouvait devenir un prophète, peu importe ses bonnes intentions, sa consécration à Dieu ou sa connaissance de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, non seulement le prophète devait-il être appelé par Dieu, mais il devait aussi avoir reçu la parole de Dieu. Le Saint-Esprit poussait les prophètes à dire ce que Dieu leur ordonnait de dire. Les vrais prophètes, au moment de prophétiser, ne pouvaient pas faire autrement. Mais quand on observe, dans l'Écriture, la façon dont les différents prophètes s'exprimaient, on voit que le fait d'être inspiré par Dieu ne voulait pas dire que les prophètes n'exerçaient plus aucun contrôle sur leurs paroles. Au contraire, la personnalité propre et la perspective particulière de chaque prophète était utilisée par le Saint-Esprit pour communiquer de manière infaillible son message. À cet égard, l'inspiration de la prophétie est identique à l'inspiration de toute l'Écriture. Voyez la façon dont l'apôtre Pierre parle des prophètes qui sont inspirés par le Saint-Esprit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'après ce qui est dit ici, le Saint-Esprit a conduit les paroles des vrais prophètes de l'Ancien Testament, et c'est ce qui garantit l'autorité et l'infaillibilité de ses paroles.
Le Saint-Esprit a œuvré à travers la personnalité et la perspective propre à chacun des prophètes. Traditionnellement, pour parler de cette réalité théologique, on emploie l'expression « inspiration organique ». C'est-à-dire que Dieu œuvre à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes, et il utilise leur personnalité propre, leur point de vue à chacun, leur éducation ou leur manque d'éducation, tout cela pour accomplir ses desseins. On pourrait rapprocher cela de la doctrine de la sanctification, où l'on voit que Dieu prend des choses qui sont humaines, terrestres et physiques, et qu'il les sanctifie en vue de les utiliser pour ses projets selon sa volonté. Et il fait la même chose avec les prophètes. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même des exemples dans la littérature prophétique où l'on voit que Dieu dicte un message à ses prophètes comme s'il leur disait « Écoute, Ésaïe, ou Jérémie, ou Ézéchiel, tu dois aller dire ceci au peuple. » Et le prophète y va, et il dit exactement cela. Donc, il y a bien des moments où Dieu dicte un message à ses prophètes, Mais en même temps, Dieu utilise qui ils sont et n'outrepasse pas leur personnalité propre pour communiquer son message prophétique à Israël dans l'Ancien Testament et à l'Église.
La troisième qualification pour le rôle de prophète dans l'Ancien Testament consistait à se montrer loyal envers Dieu en s'assurant que les prophéties étaient conformes à sa loi. Les prophètes ne répétaient donc pas simplement ce que Dieu leur dictait, mais en même temps, le Saint-Esprit ne leur donnait pas non plus la liberté de dire tout ce qui leur plaisait. Non seulement les prophètes devaient-ils communiquer fidèlement le message que Dieu leur avait ordonné de communiquer, mais ils devaient aussi s'assurer que les prophéties s'accordaient avec ce que Dieu avait déjà révélé et notamment avec ce qui avait été consigné dans les Écritures. Voici ce que dit Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 5. « S'il se lève au milieu de toi un prophète qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux et rendons-leur un culte », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, c'est à lui que vous rendez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce que Moïse cherche à expliquer ici est très important. Même si un prophète est capable d'opérer des miracles et de prédire l'avenir, il faut le rejeter si ses instructions entrent en contradiction avec les commandements de Dieu. On trouve la même idée dans Lamentations chapitre 2, versets 13 et 14, où Jérémie déplore le fait que de faux prophètes en Israël ont trompé le peuple et l'ont fait dévier. Jérémie dit que ces prophètes n'ont pas mis à nu la faute d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont approuvé la façon dont le peuple avait enfreint la loi de Dieu. Au lieu de rappeler au peuple les exigences de l'alliance de Dieu, ils ont encouragé la désobéissance. Et ce faisant, ils ont prouvé qu'ils étaient de faux prophètes. Enfin, quatrièmement, un vrai prophète dans l'Ancien Testament devait être authentifié par l'accomplissement de ses prophéties. Autrement dit, les prédictions des prophètes devaient se réaliser. Voici ce que dit Moïse dans Deutéronome chapitre 18, verset 22. « Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. » Toutes les paroles des prophètes de Dieu étaient entièrement fiables, car elles relayaient fidèlement les paroles de Dieu, qui est lui-même parfaitement digne de confiance et dont les promesses sont parfaitement dignes de confiance. La vraie prophétie est infaillible, car Dieu a la puissance et le droit de l'accomplir en parfaite conformité avec ses intentions et parce qu'il tient toujours parole. Parfois, les prophéties étaient authentifiées grâce à un accomplissement relativement rapide. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, le prophète Élie annonce qu'il ne va plus y avoir de pluie ni de rosée jusqu'à ce qu'il le dise. Et on voit dans 1 Roi chapitre 18 qu'il y a eu en effet une sécheresse qui a duré 3 ans, jusqu'à ce que Dieu y mette un terme. Il y a aussi 2 Rois, chapitre 7, versets 17 à 20, où l'on voit s'accomplir immédiatement la prophétie d'Élisée, d'après laquelle l'écuyer du roi devait mourir. À d'autres moments, l'accomplissement des prophéties n'était pas aussi rapide. Par exemple, vers l'an 930 avant Jésus-Christ, un véritable prophète a prédit la naissance de Josias, futur héritier fidèle de la maison de David. Cette prophétie se trouve dans 1 Roi, chapitre 13, verset 2. Mais l'enfant Josias n'est pas né avant l'an 630 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquement 300 ans après la prophétie, comme on le voit dans 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Et les prophéties concernant la naissance de Jésus ont pris encore plus de temps pour se réaliser.
Il nous faut ouvrir une parenthèse à ce stade pour mentionner le fait que parfois, même les paroles des vrais prophètes ne s'accomplissaient pas précisément comme elles avaient été formulées. Mais comment l'expliquer étant donné ce que Moïse a enseigné sur ce sujet? Pour pouvoir répondre à cette question, il est important de se rendre compte que lorsque l'on lit les prophéties de l'Ancien Testament, on en a parfois une appréciation qui n'est pas tout à fait juste. Beaucoup de gens pensent que les prophètes prédisaient l'avenir en décrivant des événements futurs de manière très précise. Mais en réalité, ce n'était pas toujours le cas.
Généralement, le discours des prophètes consiste tantôt à avertir de la venue de malédictions au cas où le peuple s'obstinerait dans le péché, tantôt à annoncer les bénédictions qui viendraient au cas où le peuple se comporterait de manière fidèle. Le but de ces prophéties était de motiver le peuple à se repentir de ses péchés et à persévérer dans la fidélité à Dieu et à son alliance. Le seul cas où les prédictions d'un vrai prophète étaient absolues était celui où Dieu avait juré de faire quelque chose. Par conséquent, lorsque le peuple changeait son comportement et influençait ainsi l'aboutissement de la prophétie, il y avait quand même là un accomplissement légitime de la prophétie. Dans ce genre de situation, la prophétie se réalisait pleinement, même si les avertissements ou les promesses ne se concrétisaient pas exactement. L'Écriture nous offre beaucoup d'exemples de cette réalité, mais le principe de base est formulé dans Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 10, où il est dit ceci. « Tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. »
Il y a un principe qui nous est expliqué dans Jérémie 18, où Dieu dit en gros, « Si je menace de juger une nation ou un peuple, et que cette nation ou ce peuple se repent, alors je lui épargnerai le jugement que je prévoyais de lui envoyer. » Et l'inverse est aussi valable. Si je promets la bénédiction à un peuple, à un roi ou à une nation, et si ce roi ou cette nation cesse d'obéir à mes commandements, alors je lui enverrai mon jugement plutôt que la bénédiction que je lui avais promise. Et ce principe, qui est ici formulé de manière très explicite, semble s'appliquer parfois dans d'autres passages de manière plus implicite, dans des contextes où Dieu avertit de la venue d'un jugement, ou à l'inverse, promet la bénédiction. L'exemple le plus évident se trouve sans doute dans le livre de Jonas, où Dieu envoie Jonas annoncer la venue de son jugement aux habitants de Ninive. Jonas le fait donc, et les habitants de Ninive se repentent et invoquent ce paramètre de la repentance. Et c'est apparemment ce que Dieu voulait de toute façon provoquer dans leur cœur.
D'une façon ou d'une autre, les paroles d'un vrai prophète s'accomplissent toujours. Parfois, elles s'accomplissent conformément à ce qu'elles annonçaient. Mais à d'autres moments, elles provoquent une réponse de la part des hommes, ce qui, ensuite, entraîne un résultat différent. Mais dans tous les cas, l'aboutissement d'une prophétie authentique est toujours conforme à l'alliance de Dieu et à son caractère, et cet aboutissement authentifie le ministère des vrais prophètes.
Moïse a expliqué quelles étaient les qualifications pour l'office de prophète, afin que le peuple de Dieu puisse discerner quels étaient les vrais prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Moïse voulait que les Israélites puissent reconnaître les messages qui venaient des vrais prophètes, qu'ils puissent obéir à ces messages et ainsi vivre dans la loyauté à l'alliance de Dieu. Il est important pour nous de garder à l'esprit ces qualifications, parce que ce sont aussi ces qualifications qui ont caractérisé Jésus en tant que prophète de Dieu dans le Nouveau Testament.
Nous avons donc parlé des qualifications requises pour les prophètes. Maintenant, nous allons nous intéresser à la fonction des prophètes. Nous allons évoquer trois aspects de la fonction d'un prophète. D'abord, nous parlerons de son autorité. Ensuite, nous nous intéresserons à sa mission. Et troisièmement, nous évoquerons ses méthodes, c'est-à-dire la manière dont le prophète s'y prenait pour accomplir sa mission. Commençons par son autorité. Comme on l'a dit au début de cette leçon, un prophète est un ambassadeur de Dieu et de son alliance, chargé de proclamer et d'appliquer la parole de Dieu, notamment dans le but d'avertir de la venue du jugement contre le péché et d'encourager le genre d'allégeance à Dieu qui aboutit à ses bénédictions. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait comme étant le grand roi qui gouvernait son peuple à travers des alliances. Et les prophètes étaient des ambassadeurs de ces alliances qui étaient chargés de transmettre ce que Dieu leur avait révélé depuis son trône dans le ciel. Au Proche-Orient, dans l'Antiquité, des empereurs puissants ou des suzerains régnaient souvent sur des peuples plus modestes ou sur des vassaux situés à une certaine distance de leur capitale. Typiquement, ces suzerains imposaient à leurs vassaux un traité qui précisait les conditions de leur relation. La Bible fait normalement référence à ce type de traité en utilisant le terme d'alliance. Dans le but d'administrer et de faire appliquer ces alliances, les suzerains de cette époque employaient des ambassadeurs qui parlaient en leur nom et qui exerçaient une autorité qui leur avait été déléguée. Le rôle des ambassadeurs était de rappeler aux peuples vassaux les conditions du traité, de les avertir des malédictions qui viendraient s'ils étaient infidèles à ces conditions, et de les encourager à obéir à ces conditions en vue d'obtenir les bienfaits prévus par le traité. Il est important de connaître ce contexte du Proche-Orient ancien, car dans l'Ancien Testament, Dieu parle souvent de sa relation avec son peuple comme d'une relation d'alliance entre un suzerain et ses vassaux. En tant que suzerain, Dieu a mandaté les prophètes pour qu'ils exercent avec autorité le rôle d'ambassadeur auprès de son peuple vassal en vue de lui rappeler les conditions de l'alliance. Puisque les prophètes étaient les ambassadeurs de Dieu, leurs paroles devaient être reçues comme si Dieu lui-même les avait prononcées. Le Saint-Esprit permettait aussi aux prophètes de proclamer infailliblement les pensées et les intentions de Dieu en réponse au peuple d'Israël. Ainsi, Dieu a fait en sorte que les paroles de ses prophètes soient toujours vraies et qu'elles fassent toujours autorité quand ils parlaient en son nom.
Pourquoi est-ce qu'on prend au sérieux les paroles des vrais prophètes ? Parce que les vrais prophètes parlent pour Dieu. Ils sont ses représentants. C'est pourquoi, si nous ne prenons pas leurs paroles au sérieux, c'est comme si notre cœur et nos oreilles étaient incirconcis, pour reprendre une expression de la Bible. Cela voudrait dire que notre cœur n'a pas encore été changé. Ce serait, en fait, de la rébellion contre Dieu. Donc si nous refusons d'écouter les paroles des prophètes, c'est la parole de Dieu que nous refusons d'écouter. Et nous nous opposons à Dieu lui-même. C'est donc une question très importante.
Gardons à l'esprit ce que nous venons de dire sur le prophète et son autorité, en passant à la question de sa mission. Pour bien comprendre quelle était la mission d'un prophète, regardons de nouveau la relation qui existait entre les suzerains et leurs vassaux au Proche-Orient à l'époque de l'Antiquité. Les suzerains imposaient des alliances aux peuples qui leur étaient soumis, et ces alliances fixaient les conditions de leur entente. Il y était mentionné la bienveillance dont le suzerain avait fait preuve, c'est-à-dire le bien que le suzerain avait accompli en faveur du vassal, la loyauté que le vassal devait au suzerain, y compris toutes les règles et toutes les conditions que le vassal devait respecter, et les conséquences qu'entraînerait l'obéissance ou la désobéissance du vassal vis-à-vis de ce traité, à savoir des bénédictions destinées au vassal en cas d'obéissance et des malédictions en cas de désobéissance. Il y avait donc une dynamique très similaire dans la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Et en tant qu'ambassadeurs de l'alliance de Dieu, les prophètes avaient pour mission de rappeler au peuple de Dieu les termes de l'alliance, ce qui veut dire que tantôt ils menaçaient le peuple de jugement, tantôt ils lui promettaient la bénédiction pour l'encourager à demeurer fidèle à l'alliance. Quand les Israélites étaient en bon terme avec Dieu, les prophètes leur rappelaient quelles étaient les conséquences de leurs actes pour les encourager à persévérer dans la fidélité. C'est quelque chose que l'on voit par exemple dans Jérémie chapitre 7, versets 5 à 7, chapitre 21, verset 12 et chapitre 22, versets 4 et 5. Mais quand les Israélites n'étaient pas en bon terme avec Dieu, à cause d'une infidélité sérieuse ou prolongée vis-à-vis des termes de l'Alliance, alors les prophètes les accusaient de rébellion et de trahison. Ils dénonçaient les péchés d'Israël et rappelaient au peuple quelles étaient les malédictions prévues dans l'Alliance afin d'inciter le peuple à la repentance. On voit ce type de situation dans Jérémie chapitre 8 et dans Amos chapitre 4 versets 1 à 3. Et bien souvent, les prophètes rappelaient même aux Israélites quelles seraient les bénédictions qu'ils recevraient s'ils acceptaient de se repentir. Ce genre de prophétie se trouve par exemple dans Joël, chapitre 2, versets 12 à 27, et dans beaucoup d'autres passages. Dans cette partie sur la fonction du prophète, nous avons donc parlé de son autorité, puis de sa mission. Maintenant, nous allons évoquer brièvement ses méthodes, c'est-à-dire la façon dont le prophète réalisait son travail. Il ne fait pas de doute que la méthode la plus courante que les prophètes ont employée pour accomplir leur mission consistait à parler. Les prophètes assumaient leur fonction principalement par le fait de proclamer les paroles de Dieu à son peuple. Ils accusaient le peuple d'avoir péché. Ils lui ordonnaient d'obéir, l'encourageaient à persévérer, l'avertissaient contre la venue du jugement et lui promettaient des bénédictions. Ils racontaient des paraboles, ils prédisaient l'avenir, ils priaient et ils intercédaient même pour le peuple de Dieu. Ce sont des motifs qui apparaissent des centaines de fois dans l'Écriture. De plus, beaucoup de prophètes ont même mis leurs paroles par écrit, ce qui explique pourquoi la Bible contient tant de livres ou de passages prophétiques. Mais les prophètes utilisaient aussi d'autres méthodes qui consistaient à réaliser certains actes particuliers plutôt qu'à communiquer un message verbalement. Par exemple, le Saint-Esprit a donné à certains prophètes le pouvoir d'accomplir des signes prophétiques et des prodiges. Ce type de démonstration miraculeuse de puissance attestait la légitimité des prophètes en tant qu'ambassadeurs de Dieu et manifestait l'intention qu'avait Dieu d'agir conformément aux avertissements et aux promesses véhiculées par les prophètes. À titre d'exemple, le prophète Moïse a annoncé la venue de Dieu aussi bien aux Israélites qu'aux Égyptiens. Et ses paroles ont été appuyées par d'innombrables signes et prodiges, comme les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, ou les eaux de la mer des joncs qui se sont fondues, ou tous les autres miracles qui sont racontés dans le livre de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Ces choses qui ont été accomplies par la puissance du Saint-Esprit prouvaient que Moïse était un vrai prophète et servaient aussi à inciter les Égyptiens, tout comme les Israélites, à se fier à ses paroles. Le ministère du prophète Élie et celui du prophète Élisée étaient caractérisés par de nombreux miracles, comme on le voit dans 1 Roi chapitre 17 jusqu'à 2 Roi chapitre 13. Le prophète Samuel, lui aussi, a accompli des miracles. Par exemple, il a fait venir le tonnerre et la pluie dans 1 Samuel chapitre 12. Et dans 1 Roi chapitre 13, il y a un prophète anonyme qui réalise lui aussi un signe miraculeux en paralysant la main du roi Jéroboam. En plus de miracles, beaucoup de prophètes accomplissaient aussi des actes symboliques qui venaient étayer leurs messages verbaux. Parfois même, le fait d'exhorter le peuple de Dieu à obéir aux termes de l'Alliance impliquait des rencontres ou des confrontations sur le terrain spirituel.
En considérant les prophètes comme étant des émissaires de l'Alliance de Dieu, on voit clairement que les menaces de malédiction et les promesses de bénédiction que contient la Bible sont toutes fondées sur la relation d'alliance qui existe entre Dieu et son peuple. Dieu n'est pas capricieux dans la façon dont il traite son peuple. Il n'agit pas envers lui de façon complètement arbitraire et imprévisible. Au contraire, Dieu respecte les termes de son alliance et ces termes ne sont un secret pour personne. Dans sa grâce, Dieu nous a donné sa loi et il nous a envoyé des ambassadeurs pour nous montrer comment appliquer sa loi dans les circonstances diverses de notre vie. Dieu fait en sorte que ce soit facile pour son peuple de savoir ce qu'il doit faire, car il veut que nous marchions sous son regard dans la fidélité. Il veut que nous recevions ses bienfaits et il veut que nous participions à son projet pour son royaume.
Concernant l'office de prophète, nous avons donc d'abord évoqué les qualifications requises pour ce ministère, puis nous avons parlé de ce qu'était la fonction des prophètes. Maintenant, nous allons voir les attentes qui reposaient sur cet office depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament crée des attentes en ce qui concerne l'office de prophète et l'avenir de cet office de deux manières. D'une part, certaines de ces attentes proviennent du développement historique de ce ministère. D'autre part, il y a des attentes qui proviennent de prophéties spécifiques qui concernent les futurs prophètes. On va s'intéresser à ces deux types d'attentes, en commençant par celles qui sont issues du développement historique de l'office de prophète. Puisque la relation de Dieu avec les hommes a toujours été encadrée par des alliances, il y a toujours eu des prophètes pour rappeler aux gens les termes de ces alliances. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le rôle des prophètes a parfois changé. Le royaume de Dieu a progressé, a grandi, et donc le rôle des prophètes s'est ajusté à cette réalité et à des besoins qui évoluaient. Nous allons examiner le rôle des prophètes pendant quatre périodes différentes de l'histoire, à commencer par la longue période qui a précédé l'avènement du premier roi en Israël, c'est-à-dire période pré-monarchique. Cette période correspond aux alliances que Dieu a conclues avec Adam, Noé, Abraham et Moïse. Au début de cette période pré-monarchique, le royaume de Dieu n'avait pas été séparé du reste du monde sous la forme d'une nation particulière. Et même à partir du moment où un peuple a été mis à part, à l'époque d'Abraham, ce peuple n'avait pas de roi. Pendant cette période, les prophètes réalisaient toutes sortes de tâches différentes et ils portaient toutes sortes de titres différents. Globalement, on peut dire des prophètes qu'ils parlaient avec Dieu, qu'ils recevaient des visions et qu'ils représentaient les alliances de Dieu auprès du reste des hommes. Par exemple, lorsqu'au départ, Dieu a créé le monde, il parlait directement avec Adam et Ève. Il marchait et s'entretenait avec eux, et c'est ainsi qu'il recevait sa révélation, comme on le voit dans Genèse, chapitre 2 et 3. Ils assumaient leur rôle prophétique en transmettant leur connaissance de Dieu et de son alliance à leurs enfants. Certains de leurs descendants ont aussi eu une relation semblable avec Dieu, comme Hénoc, par exemple, qui est mentionné dans Genèse, chapitre 5, verset 24. À l'époque de Noé aussi, Dieu parlait directement avec Noé, comme on le voit dans Genèse, chapitre 6 à 9. De plus, Noé a dû annoncer de manière prophétique le jugement de l'Alliance destinée au monde à cause de la gravité du péché des humains, comme Pierre le dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Sans oublier que Noé a aussi accompli publiquement un acte prophétique qui confirmait son message quand il a construit l'arche et qu'il l'a remplie d'animaux. Dieu a aussi parlé directement à Abraham et lui a révélé ses projets pour l'avenir. À travers ses conversations avec Dieu et en communiquant l'objet de ses conversations à d'autres personnes, Abraham a, lui aussi, assumé un rôle prophétique, ce qui est mentionné dans des passages comme Genèse, chapitre 20, verset 7. Isaac, Jacob et Joseph, les descendants d'Abraham, ont aussi occupé la fonction de prophète de Dieu. Dieu leur a envoyé des rêves et des visions, et même des anges. Chacun de ces prophètes agissait comme un représentant de l'Alliance auprès des gens, en leur transmettant la parole de Dieu et en les exhortant à lui demeurer fidèles. L'époque de Moïse constitue une autre période importante d'activité prophétique avant la monarchie. D'après Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8, Moïse lui-même était un prophète prééminent à cette époque. À ce moment de l'histoire, Dieu a livré à son peuple une alliance écrite sous la forme des 10 commandements et du livre de l'alliance dont il est question dans Exode, chapitre 20 à 23. Il a été ensuite la responsabilité de Moïse d'administrer cette alliance en l'expliquant au peuple, en dirigeant le peuple d'après les termes de l'alliance et en exhortant le peuple à demeurer fidèle à Dieu en vue de recevoir les bénédictions de l'alliance plutôt que ses malédictions. D'autres prophètes à partir de l'époque de Moïse et après lui ont continué d'assumer cette fonction, bien qu'aucun d'entre eux n'est eu un ministère aussi important et aussi influent que Moïse. Pendant la période pré-monarchique, l'office de prophète avait été très varié. Mais au cours de la période qui a suivi, à savoir la période monarchique, cet office est devenu plus formel après l'entrée du peuple d'Israël en terre promise et l'établissement du premier roi. Cette période monarchique a débuté avec Saül, le premier roi d'Israël. Mais on associe cette période surtout à son successeur, le roi David, et à ses descendants. Pendant la période monarchique, l'office de prophète a commencé à se concentrer sur les arènes du pouvoir, notamment sur la cour du roi et la ville de Jérusalem, et le nombre de prophètes a augmenté. Puisque le roi était devenu la figure centrale du peuple vassal de Dieu, le travail des prophètes, qui consistait à rappeler au peuple les termes de l'alliance de Dieu, se faisait habituellement en s'adressant directement au roi. Pendant cette période, les prophètes avaient pour tâche principale de rappeler au roi et à leur entourage que la nation était tenue de servir Dieu fidèlement. Par exemple, les livres de 1 et 2 rois et de 2 chroniques rapportent beaucoup d'échanges entre les prophètes et les rois d'Israël et de Juda. En même temps, les prophètes continuaient de parler aux Israélites en général pour leur rappeler les exigences de l'Alliance de l'Éternel et les conséquences possibles de leur comportement. Les prophètes exhortaient aussi les nations environnantes à vivre en paix avec Israël et Juda.
Bien sûr, Israël et Juda étaient à l'origine un seul royaume, mais la Bible les mentionne séparément, en tant que deux royaumes distincts, parce que le royaume d'origine a été partagé en deux sous le règne de Roboam, le fils de Salomon. C'est arrivé vers l'an 920 avant Jésus-Christ, et le royaume du Nord a réuni 10 tribus, et le royaume du Sud, 2 tribus. On a appelé le royaume du Nord Israël. La tribu la plus importante de ce royaume était Éphraïm, mais les 10 ensemble ont pris le nom d'Israël. Le royaume du Sud a pris le nom de Juda, qui était la tribu la plus importante de ce royaume, et la capitale du royaume du Sud était évidemment Jérusalem.
Après l'époque de Salomon, il y a eu un schisme entre le royaume du Nord et celui du Sud. Le royaume du Nord a pris le nom d'Israël et il avait son propre lieu de culte principal. Et le royaume du Sud a pris le nom de Juda. Et après le schisme entre les deux royaumes, on voit souvent les prophètes qui dirigent leur message vers l'un ou l'autre de ces royaumes. Comme Osée, par exemple, qui a été envoyé comme prophète auprès d'Israël, ou Ésaïe, qui l'a été auprès de Juda. Et donc, il y a des ministères prophétiques particuliers attachés à chacun de ces royaumes du Nord et du Sud.
Malheureusement, les rois ainsi que les peuples d'Israël et de Juda n'ont pas obéi aux prophètes. Par conséquent, ils ont dû faire l'expérience de la malédiction prévue dans l'Alliance, à savoir la déportation depuis la terre promise, ce qui a marqué le début de la période de l'exil. Le royaume d'Israël, au nord, a subi cet exil en l'an 723 ou 722 avant Jésus-Christ, quand il a été emmené en captivité en Assyrie. Le royaume de Juda, au sud, a subi l'exil en l'an 587 ou 586 avant Jésus-Christ, quand il a été emmené en captivité à Babylone. Même pendant l'exil, l'office de prophète continue d'être dirigé vers les rois du peuple de Dieu. Mais à ce stade de l'histoire, il n'y a plus de roi. Et donc, l'accent est mis sur le rétablissement de la royauté et du royaume au profit du peuple de Dieu. Dans ce but, les prophètes encouragent alors les Israélites à se repentir de leurs péchés et à redevenir fidèles à l'Alliance afin que Dieu leur accorde de nouveau les bénédictions de son Alliance. Les prophètes proclament aussi au peuple que s'il revient à Dieu, celui-ci le fortifiera pour qu'il parvienne à garder son Alliance et qu'il ne tombe pas de nouveau sous le coup de sa malédiction. Dans Jérémie chapitre 31, versets 33 et 34, il est même dit que Dieu va faire en sorte qu'il soit impossible aux Israélites d'enfreindre de nouveau l'Alliance, de sorte qu'ils vivront alors avec enthousiasme selon la loi de Dieu. À travers leur ministère, les prophètes espèrent obtenir de Dieu qu'il rétablisse le royaume d'Israël en terre promise, sous le règne d'un héritier fidèle de David. La période de l'exil arrive finalement et partiellement à sa fin et commence alors la période du rétablissement. Cette période post-exilique débute vers l'an 539 ou 538 avant Jésus-Christ. À cette époque, il n'y a toujours pas de roi en Israël ou en Juda, mais Jérusalem et le temple sont quand même reconstruits et de nombreuses familles retournent vivre en terre promise. Il y a encore relativement peu de prophètes à cette époque, mais quelques prophètes fidèles comme Agée et Zacharie veillent sur les responsables du peuple et sur la population générale en vue de les encourager à demeurer fidèles à Dieu. Ils exhortent le peuple à être fidèle pendant cette tentative de rétablissement du royaume, afin que Dieu permette au projet d'être pleinement réalisé. Malheureusement, le peuple ne prête pas attention aux avertissements des prophètes et la tentative de rétablissement rencontre des difficultés. Pendant cette période de rétablissement, on s'attend, par rapport au royaume, à ce que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites à David, en remettant un de ses descendants sur le trône d'Israël et de Juda. Cette attente apparaît dans des passages comme Zacharie, chapitres 12 et 13. Au début, on a l'espoir que l'obéissance des Israélites incite Dieu à les bénir en retour. Mais en voyant le rétablissement s'éloigner, on commence finalement à espérer que Dieu fasse miséricorde à son peuple en dépit de son péché, et qu'il rétablisse le royaume tout simplement pour la gloire de son nom. En retraçant ainsi le développement historique de l'office de prophète, on peut voir que les prophètes ont toujours été les ambassadeurs de Dieu, investis de son autorité et chargés de confronter le peuple au terme de l'Alliance. Cette constance dans la nature de l'office de prophète a créé une attente particulière par rapport à tout ministère prophétique futur. En l'occurrence, on pouvait s'attendre à ce que tout nouveau prophète de Dieu soit lui aussi un émissaire de Dieu, investi de l'autorité de Dieu et chargé de rappeler au peuple la bienveillance de Dieu envers lui, la loyauté que Dieu exige de lui et les bénédictions et les malédictions qui peuvent venir par voie des conséquences. Mais d'autres attentes étaient nées de l'évolution de l'office de prophète au fil du temps. Au début, les prophètes de Dieu n'étaient pas aussi clairement associés au roi. Mais après l'établissement de la monarchie en Israël, on voit que le rôle des prophètes est devenu lié à celui des rois. Et qu'à chaque fois qu'il y avait des changements importants qui touchaient l'office de roi, ces changements avaient des répercussions sur l'office de prophète. Ce constat montre que les attentes qui reposent sur l'office de prophète dans le Nouveau Testament proviennent principalement de la dernière période de l'histoire de l'Ancien Testament, à savoir la période post-exilique du rétablissement où le peuple de Dieu attend qu'un roi davidique accède de nouveau au trône. On attend notamment des futurs prophètes qu'ils annoncent et qu'ils accomplissent l'avènement du roi messianique et qu'ils introduisent ainsi une période nouvelle caractérisée par la fidélité à l'Alliance de Dieu. Concernant le rôle des futurs prophètes, il y avait donc des attentes qui provenaient du développement historique de cet office, mais il y avait aussi d'autres attentes qui reposaient sur des prophéties spécifiques concernant ces futurs prophètes. Il existe trop de prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent des futurs prophètes pour que nous puissions toutes les mentionner. Dans l'intérêt de cette leçon, nous allons donc nous limiter à trois éléments. D'abord, il y a la prophétie faite pendant la période de l'exil, d'après laquelle Dieu va envoyer un prophète particulier qui sera un messager du Seigneur, lui-même annonçant sa venue. D'après Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5, un prophète particulier doit venir pour annoncer que le Seigneur arrive et qu'il va vaincre tous ses ennemis et rétablir la monarchie davidique. La venue de ce messager signifiera l'imminence du rétablissement promis. Enfin, le peuple attendait encore la venue d'un prophète comme Moïse qui conduirait le peuple dans la justice, tout comme Moïse l'avait fait pendant la période pré-monarchique. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. »